Je lis donc. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que, chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là, mon vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais un nouveau chrétien. Et c'était mon beau-frère Mike qui m'avait conduit au Seigneur. Il avait subi une transformation radicale. C'était un bûcheron toujours en train de boire.
A lager.
Et un jour, toujours en train d'essayer de faire des affaires. C'était son habitude. Mais un jour, il est venu me voir pour m'aider à installer un ventilateur dans la cuisine. Et ça, c'était vraiment un grand changement dans sa vie, qui s'intéresse aux autres. Il a commencé à me parler du Seigneur qui avait transformé sa vie. J'étais un peu sceptique. Je pensais, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Dans quoi est-ce qu'il est tombé? Mais c'était du sérieux pour Mike. Et suite à cette rencontre, je me suis converti en allant à Calvary Chapel à Seattle. Et Mike, lui, a continué sur sa lancée. Il est allé à l'école biblique, lui qui savait à peine lire. Et puis un jour, il a décidé d'être missionnaire au Népal. Et je me rappelle le matin où je l'ai emmené à l'aéroport pour partir avec toute sa famille. Je lui ai demandé quel était son verset favori dans la Bible. Il m'a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et c'est ce que Paul veut nous dire ce matin. Paul a une passion de communiquer son message. Paul est passionné. J'en ai emmené quelques-uns d'entre vous à la Gelateria di Torino. Et maintenant, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont passionnés pour ce marchand de glace. Maintenant, avec passion, vous pouvez convaincre les autres d'y aller. Paul, il a cette passion de l'Évangile. Vous comprenez que je plaisante en comparant cette passion pour la glace de... Mais s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'espoir de transformation. Et Paul, nous l'avons vu en étudiant Corinthiens, il essaye toujours de communiquer au mieux, de faire passer son message avec force, avec puissance, parce qu'il est convaincu. Et donc, nous allons voir que là, pour captiver son auditoire, il va exprimer son intérêt pour eux.
His interest for them.
On dit en anglais, people don't care how much you know until they know how much you care. En français, on pourrait traduire par les gens se moquent de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas que vous vous intéressez à eux. Et donc, il va établir une relation chaleureuse avec son auditoire. Il va d'abord les complimenter. Verset 8, il leur dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Ils remercient Dieu pour leur foi. Parce que leur foi, on en parle dans partout. Il est important de remarquer qu'on ne parle pas de la beauté de leur bâtiment, de leur grand nombre, mais de leur foi. Et si on parle de leur foi, c'est que leur foi est une foi en action, qui se démontre par des actes. Alors peut-être que certains diront, Paul exagère un peu. Mais c'est pas grave. Parce que Rome était une ville entièrement corrompue. Il y avait des intrigues politiques, l'immoralité sexuelle, l'appât du gain, greed. Et pourtant, malgré cet environnement, il y avait une église qui florissait, qui prospérait. Et on entendait parler d'eux au loin. Est-ce qu'on parle de nous au loin? Est-ce qu'on parle de nous dans le quartier? C'est notre prière, c'est qu'on ait un impact et une bonne odeur pour les gens qui nous entourent. Et je sais qu'on parle, on nous regarde autour de nous ici. Je rends grâce à Dieu pour cela. Paul rend grâce à son Dieu, mon Dieu. C'est Martin Luther qui disait que la foi chrétienne, c'est la foi des pronoms personnels. Dieu dans la foi chrétienne, c'est pas un créateur lointain et distant. Dieu, c'est papa pour celui qui croit. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il rend grâce à son Dieu par Jésus-Christ. C'est important de remarquer au passage la correcte façon de prier. Vous entendez des fois des gens qui prient, Saint-Esprit, viens, fais ceci, fais cela. D'autres qui disent, Jésus, je t'en prie, fais ceci, fais cela. Je crois que c'est pas grave. Si vous le faites de tout votre cœur, mais la façon dont Dieu nous dit de prier, c'est de parler au Père, au nom du Fils et guidé par le Saint-Esprit. Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Éphésiens 5, 20, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important de voir qu'on peut parler au Père parce qu'on peut parler au Fils d'abord. Jésus est le médiateur, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu le Père. Et il peut être cet intermédiaire parce qu'il est à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme. Plus tard, dans Romains, Paul va expliquer que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Il dit que des fois, c'est l'Esprit lui-même qui nous aide à pousser des soupirs vers Dieu. Et ça, c'est des prières. Il leur dit au verset 9 que Dieu est témoin de ce qu'il prie pour eux sans arrêt. Il doit en appeler à Dieu parce qu'il le fait dans l'intimité devant Dieu. Et Jésus nous avait appris que lorsque nous prions, nous ne devons pas être comme les hypocrites qui aiment à prier debout pour qu'on les voit bien. Il dit qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Si les autres les ont vus, ils disent : oh, quel homme spirituel! Il leur disait : toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas prier en communauté ? Non, là aussi, il faut lire toute la parole de Dieu. Et Paul, dans 1 Corinthiens 14, dit qu'il faut parler en langage intelligible pour que les gens puissent dire « Amen » à nos actions de grâce, à nos prières. C'est important de prier ensemble, mais il est encore plus important de prier seul devant Dieu. Il dit on reviendra sur ces versets, mais il dit qu'il n'arrête pas de prier, il prie sans cesse. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Alors, il y en a qui disent ça veut dire qu'il faut devenir moine ou bonne sœur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire d'autre. Non, bien sûr, ce n'est pas du tout ce que Paul veut signifier. Jeudi soir, nous avions une réunion de prière. Nous étions un petit groupe. Il y avait quatre hommes, deux femmes, et apparemment, les hommes n'ont pas arrêté de tousser. Zoé rit parce que c'est elle qui m'a dit qu'elle est partie en vitesse à la fin parce qu'elle ne voulait pas attraper le rhume.
Really,
Alors c'est vrai qu'on toussait beaucoup, mais je pense pas qu'on était là pendant 2 heures, pendant 1 heure et demie. Mais on toussait sans même s'en rendre compte. Moi, j'avais rien entendu. En fait, notre tousse était un réflexe. Et de la même façon, la prière, ça doit être un réflexe. On n'a pas besoin d'attendre le jeudi soir, mais dès qu'il y a une situation, quelqu'un qui se blesse les doigts dans une porte, quelqu'un qui vous coupe dans la voiture, qui vous fait une queue de poisson, la pensée de quelqu'un vous vient à l'esprit. Tout c'est prier pour cette personne, pour la situation. Alors, il n'y a pas besoin de tousser, mais je voulais dire, ayez ce réflexe comme de tousser, de prier. Priez continuellement. Paul dit qu'il sert Dieu en son esprit en annonçant l'évangile de son Fils, au verset 9. Si vous étiez là le week-end dernier, vous avez vu l'opposition entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. J'ai quelques cassettes à prêter si cela vous intéresse. Des sermons de la semaine dernière. S'il dit qu'il sert en esprit, ça veut dire qu'on peut servir dans la chair. Ce qui va faire la différence, c'est votre motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici ce matin ? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes retrouvé un peu forcé? Vous étiez invité chez des gens qui vont dire, bon, mais maintenant on va à l'église. Alors peut-être vous êtes là et vous préfériez être ailleurs. On peut vous reconnaître parce qu'en général, vous ne chantez pas. Vous refusez de chanter. Votre motivation, c'est la culpabilité. Il y en a qui sont là par habitude. Parce que, bon, ben, c'est ce que je faisais quand j'étais enfant. Maintenant, il y a cette église ici. On vient par habitude. D'autres peut-être sont là parce que c'est une bonne chose à faire. C'est respectable. Ça l'est plus aux États-Unis qu'en France d'aller à l'église. Mais la motivation, ça peut être ce que pensent les autres. Et peut-être que ceux-là, ils vont chanter. Mais ils vont chanter en disant « Je chante pour pas être repéré, je chante. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire cet après-midi ?» Ils sont pas là. Ils sont pas là pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes là parce que vous voulez rencontrer Dieu avec la communauté ? Parce que vous voulez découvrir sa parole, alors là, vous êtes là en esprit. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y a des fois, on peut utiliser le langage pour faire croire qu'on appartient au groupe. Oh, loué soit Dieu. Oh, je vais prier pour toi. Est-ce que c'est votre cœur ou est-ce que ce sont des mots? Vous pouvez tromper quelques personnes quelque temps, mais pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Et encore moins tromper le Seigneur. Le Seigneur voit vos cœurs. Et il est béni si vous êtes là pour le rencontrer, pour l'adorer, pour le servir. Paul aime ces personnes et il prie pour elles. On dit que la vraie mesure de notre amour, c'est la prière pour les autres. Si vous aimez les gens, priez pour eux. Nous avons vu que Paul souhaitait les voir depuis longtemps, mais il en avait été empêché non pas par le Saint-Esprit ou le diable, mais parce qu'il avait tellement d'œuvres à faire ailleurs. Et ce qu'il fait, on peut le faire aussi. Il ne peut pas se rendre en personne, mais il prie pour eux, il leur écrit. Nous aussi, peut-être nous avons des êtres chers que nous ne pouvons pas, avec qui nous ne pouvons pas être en ce moment. Mais rien ne nous empêche de prier pour eux, de leur écrire, de leur envoyer un cadeau, un livre, quelque chose d'édifiant, de leur passer un coup de fil. Soyons imaginatifs. Nous pouvons faire tellement de bonnes choses si nous nous laissons prendre par le Seigneur. Et donc, Paul prie pour ces personnes qu'il n'a même jamais rencontrées encore. Et c'est peut-être pour ça que leur foi est si forte. Comme le disait Paul en parlant des musulmans tout à l'heure, nous allons être surpris de la puissance de la prière de l'autre côté de la mort. Et nous allons nous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pas prié davantage ? Nous allons avoir toutes ces bénédictions qui nous attendaient si seulement nous avions prié pour les recevoir ou pour les faire donner aux autres. Il dit qu'il désire vivement les voir. Pour leur donner quelques dons spirituels au singulier, afin qu'ils soient rendus plus forts. Ça aussi, c'est le cœur de l'apôtre. Il veut fortifier l'autre dans la foi. Est-ce que j'ai le même souci avec celle que je rencontre? Est-ce que je peux dire une parole qui va les encourager? Les encourager à être assidus aux études? Est-ce que je prie pour elles? Pour ces personnes? Et ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas le don spirituel dont il est question. Ici, c'est au singulier. Nous allons parler davantage des dons spirituels dans Romains 12. Mais une chose est certaine, c'est que l'Église ne peut être en bonne santé que si chacun exerce ses dons. les dons spirituels et aussi les autres dons, les deux autres capacités que Dieu peut nous avoir données. Une chose importante, c'est d'exercer les dons que nous avons reçus. Ce qui est dangereux, c'est quand on essaye d'exercer les dons que nous n'avons pas reçus. Et des fois, on ne sait pas les dons qu'on a reçus. Un signe, c'est d'abord que vous allez avoir envie de le faire. C'est Dieu qui va causer en vous le vouloir et le faire. Et c'est bien aussi de commencer dans un cadre sans trop de risques. Si vous venez de commencer à apprendre la guitare, c'est mieux de ne pas vous proposer de jouer devant 3000 personnes pour Louis Palau. Par contre, vous pouvez commencer dans un petit groupe de quartier. D'abord pour vous, et voir si les autres réagissent positivement. Mais une chose est certaine, c'est que nous avons tous reçu des dons. Et tant que vous n'exercez pas ces dons, le corps de Christ est handicapé. Don't exercise. Nous avions vu dans 1 Corinthiens 14 la belle image du corps de Christ qui représente les croyants, que représentent les croyants ensemble. Nous reparlerons plus en détail des dons et comment les définir et les mettre en pratique. Et ce qui est intéressant, l'apôtre Paul se reprend au verset 12. Il vient de dire qu'il aimerait bien les voir pour leur donner quelque chose. Et puis il leur dit, non, plutôt afin que chez vous, nous soyons encouragés les uns les autres par la foi qui vous est commune à vous et à moi. Et Paul humblement se reprend parce que il ne veut pas donner l'impression que c'est lui qui va tout donner. Comme si la bénédiction était à sens unique. Parce qu'en fait, dans l'économie de Dieu, lorsqu'on donne, on reçoit. Lorsqu'on sert les autres, on est béni en retour. J'ai déjà partagé mon expérience à Seattle au début de ma conversion. Je m'étais porté volontaire pour conduire des handicapés en chaise roulante à l'église et les ramener chez eux. Et au début, je pensais, qu'est-ce que je suis généreux. Je me lève plus tôt que tout le monde. Je me sacrifie, mais c'est pour le Seigneur. Et bientôt, j'ai réalisé qu'en fait, je recevais plus d'eux que je pouvais leur donner. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient même pas parler, ils ne pouvaient que faire des petits cris, mais ils pouvaient manifester une joie de me voir qui me remplissait de bénédictions. Je recevais plus d'eux que je ne leur donnais. Et ça devrait vous encourager à servir le Seigneur. Peut-être vous n'avez pas le temps. C'est difficile d'arriver à l'heure avec seulement 10 minutes de retard ici le matin. Comment est-ce que je pourrais imaginer, par exemple, de m'occuper de la vente de livres à l'église? Disons que vous partez en vacances et que votre train est à 6 heures du matin. Je sais que vous allez vous lever. Vous me demanderez peut-être de vous appeler pour être sûr de vous lever. Pourquoi ? Parce que vous allez être béni par vos vacances. Vous voulez surtout pas les rater. Sachez que lorsque vous servez, vous allez être béni. Nous reparlerons des tas d'opportunités que nous allons avoir maintenant avec un local à temps plein. Paul, il veut les voir parce qu'il voudrait avoir quelques fruits parmi eux. Jésus a dit dans Jean 15, le chapitre que nous avons étudié à la montagne, « Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Porter du fruit, c'est non seulement avoir des personnes qui viennent à Dieu, mais démontrer le fruit de l'Esprit dont nous avons parlé le week-end dernier, avec tous ses aspects, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Paul veut voir ça dans ses Romains. Et Paul veut voir ça chez les Niçois aussi. Paul nous dit qu'il se doit aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. C'est facile de diviser le monde. Il y a ceux qui aiment la glace à la vanille et les autres. Ici, il y avait les Juifs et les autres, les païens. Et les païens, il y avait en gros, il y avait ceux qui avaient été touchés par la culture grecque. Puis il y avait les autres, les barbares. Les Grecs les appelaient les barbares parce qu'ils ne comprenaient pas leur langue. Ils avaient l'impression que tout ce qu'ils disaient, ces autres étrangers, c'était barbares, 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 barbares. Et lorsque Paul dit qu'il se doit aux Grecs et aux barbares, il veut dire qu'il n'y a pas de limite de race. Il se doit à toutes les nations. Les civilisés comme ceux qui le sont moins. Les savants opposés aux ignorants. C'est-à-dire ceux qui ont reçu une éducation, qui sont allés à l'école et ceux qui n'ont jamais pu le faire. Paul dit en quelque sorte, de quelque façon que vous divisiez les gens, je veux annoncer la bonne nouvelle à tous. Et il a le sentiment que c'est comme une dette. C'est pas quelque chose qu'il peut mettre de côté. Il se sent sous obligation. Il nous le disait déjà dans 2 Corinthiens 5, 14. C'était l'amour du Christ qui l'étreignait, qui le forçait à servir, annoncer l'évangile. Lorsqu'on a reçu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, c'est C'est un peu comme si on est devenu millionnaire. Si on comprend bien les choses, c'est même mieux que si on était devenu millionnaire. Lorsqu'on voit ceux qui nous entourent et qui sont pauvres, qui n'ont pas d'amour, qui sont mal aimés, on a une dette d'amour non seulement envers Dieu qui nous aime, mais envers ses autres. Imaginez que vous avez une grave maladie, disons le cancer. Et vous découvrez un docteur qui vous soigne. Avec un remède qu'il a inventé lui-même. Et pour lequel il ne fait rien payer. Vous êtes complètement guéri. Et tout autour de vous, vous voyez des gens encore malades. Et le docteur va vous dire que seuls les gens qui ont été guéris peuvent parler aux autres malades. Est-ce que vous croyez que vous sentiriez pas une dette d'abord envers ce docteur et envers tous les autres malades qui n'ont pas eu encore accès à ce traitement? Est-ce que vous ne diriez pas cette bonne nouvelle à tous les autres malades? Paul nous dit que nous avons une dette. Et la seule façon d'essayer de la payer, c'est d'aimer les autres. Dans Romains 13:8, il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». La maladie dont parle Paul, c'est une maladie bien plus terrible que le sida et le cancer combinés. C'est la mort éternelle, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu pour toujours et toujours et toujours. Paul se présente donc comme quelqu'un qui doit leur dire. Il dit donc qu'il a un vif désir de leur annoncer l'Évangile. On dit que qui paye ses dettes s'enrichit. C'est pas le tout de réaliser qu'on a une dette, ce qui est bien, c'est de la payer. Il est désireux, il a une passion de partager cette bonne nouvelle. Peut-être que vous vous dites, oui, mais moi je ne me sens pas capable, je me sens indigne. Au verset 16, il va ajouter, je n'ai pas honte de l'Évangile. Bien au contraire, il est fier de l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'il parle d'avoir honte de l'Évangile? Parce qu'il sait que c'est une possibilité pour chacun de nous. On a peur de ce que vont penser les autres. On a peur de se retrouver dans la minorité. D'être ridicule. Et pourtant, Paul nous dit que dans 1 Thessaloniciens 2:4, nous ne parlons pas pour plaire aux hommes.
It's the other one, probably.
On the contrary, we speak as men approved by God to be
Dieu, Paul et Dieu nous disent, moquez-vous de ce que pensent les autres. Paul a déjà dit que la parole de la croix, c'est folie pour ceux qui périssent. Paul était sans doute intimidé de venir dans la capitale de l'Empire romain. En leur transmettant le message d'un charpentier juif crucifié. Il était certes ressuscité, mais avant tout, c'était simplement un charpentier juif. Risen. Et donc, Paul comprenait qu'il pouvait avoir, ces Romains pouvaient avoir du mal à parler de Dieu et de l'Évangile. Mais dans Hébreux, il est dit que celui qui nous sanctifie n'a pas honte d'être appelé notre frère. Jésus n'a pas honte de dire que nous sommes ses frères, ses sœurs. Et ce qui est terrible, c'est que des fois nous pouvons avoir honte de l'Évangile, alors que les gens autour de nous n'ont pas honte de leurs idoles. Je suis attristé par le fait que les Français qui se disent indépendants ont importé une fête américaine. Et les gens n'ont pas honte de se déguiser en sorcière, vous avez remarqué? Mettre des citrouilles de partout. On pourrait rire. On devrait se moquer d'eux. Il est dit, psaume 97:7, ils seront dans la honte tous ceux qui rendent un culte à une statue, ceux qui se félicitent des faux dieux. Tous les dieux se prosternent devant le vrai Dieu. 7. Et donc, Paul dit, il n'y a aucune raison d'avoir honte de l'Évangile. Bien au contraire, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul parlait de puissance aux Romains et les Romains aimaient la puissance. Ils avaient une armée très forte, très organisée, des institutions solides. Ils régnaient sur tout le monde de l'époque. Mais ils étaient forcés de réaliser que malgré cette puissance militaire, politique, ils étaient totalement impuissants dans le domaine moral. Leur philosophie ne pouvait pas changer les cœurs. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons de la puissance. Pouvant envoyer des messages à la vitesse de la lumière sur toute la surface du globe. Nous pouvons envoyer des satellites dans l'espace, des sondes spatiales. Nous avons compris certaines choses dans l'énergie nucléaire. Nous pouvons faire exploser la planète si ça nous chantait. Mais nous sommes totalement impuissants moralement. Les hommes sont aussi immoraux qu'ils étaient il y a 20 siècles. L'immoralité du Moyen-Âge n'a rien à envier à notre immoralité. Et donc lorsqu'il parle de puissance, il a leur attention. Et il dit que cette puissance a sa source, c'est Dieu lui-même. L'évangile, c'est le pouvoir suprême de Dieu, c'est une énergie divine. C'est le mot en grec, c'est le mot dynamos. C'est un pouvoir effectif. Alors souvent on vous dit c'est le même mot que dynamite. Alors là il faut faire attention à la chronologie de l'étymologie. C'est les frères Nobel qui ont créé le mot, qui ont déposé le mot dynamite à partir du mot dynamos. C'est vrai qu'ils avaient un explosif très puissant. Et lorsqu'ils ont réalisé son potentiel négatif, ils ont investi leur fortune dans les prix Nobel pour, au contraire, faire du bien à l'humanité. Mais ce mot dynamos, il parle d'une puissance active. Et c'est une puissance de transformation fantastique. Je l'ai vu pour la première fois lorsque Mike est devenu un missionnaire, alors que c'était un ivrogne, un bûcheron ivrogne transformé en missionnaire. Lui qui ne savait pas écrire, il a publié des poèmes. Dans ces deux derniers versets, 16 et 17, Paul introduit des thèmes. Souvent, dans la musique classique, les premières mesures, ce sont des accords très bruyants. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'avant, la musique, ça se jouait chez les gens. Peut-être dans les salons d'un prince. Mais les gens parlaient un peu comme le dimanche matin ici. Et donc, pour attirer l'attention, le compositeur faisait un peu comme lorsque Tony tousse et commence à chanter. Il a leur attention maintenant. Je parle des Romains, pas de Tony. Il va introduire des thèmes. Le thème, nous l'avons vu déjà, celui de l'Évangile, la bonne nouvelle. Il va parler de justice. Et puis il va parler de foi. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Il va parler donc de salut. Qu'est-ce que veut dire le mot salut? Recevoir le salut, c'est être sauvé. Mais sauvé de quoi? Première composante, c'est être sauvé de la mort pour passer à la vie. Être sauvé des conséquences terribles du péché qui sont la mort éternelle pour passer à la vie éternelle avec Dieu. Être sauvé, ça peut être passer de la maladie à la santé. Être sauvé, c'est passer du danger à la sécurité. Quelqu'un qui est sur le toit d'une maison alors que les eaux montent, s'il est enlevé par hélicoptère, il se retrouve en sécurité. Être sauvé, c'est passer de l'esclavage à la liberté. Et ce salut dont il est question ici, c'est non seulement le salut pour la vie éternelle, mais c'est aussi tous ces autres aspects. Et ce qui est merveilleux, c'est la simplicité de ce salut. Il suffit de croire. Pas croire à, mais croire en. Sorry. Donc c'est la différence entre être d'accord intellectuellement. Je crois à la théorie de la pesanteur. Et puis mettre toute sa confiance en quelque chose. Savoir que si je marche jusqu'au bout du toit, je vais tomber et me faire très mal. En refusant de faire ça, je mets ma confiance dans la théorie de la gravité. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire du funambule français Blondin. Phil de Ferrist. Thank you. Au début du 19e siècle, du 20e, pardon, il avait franchi les chutes du Niagara sur un fil en acier. Et il avait d'abord demandé à la foule, avant de faire son exploit, il avait demandé: combien d'entre vous pensent que je suis capable de traverser les chutes du Niagara sur ce fil? Bien sûr, ils étaient venus le voir parce qu'il avait un grand renom, ils voulaient qu'il le fasse. Ils disaient: oui, nous croyons que tu peux le faire. Et il s'était lancé sur le fil en glissant pendant de longues minutes. Et puis finalement, il est arrivé de l'autre côté. Et tout le monde a applaudi. Et puis là, il a demandé à la foule: est-ce que vous croyez que je peux passer de l'autre côté avec quelqu'un sur mon dos? Oui, nous le croyons, tu es capable. Qui c'est qui va venir sur mon dos? Ça, c'est croire en Blondin. C'est pas croire à ses capacités, c'est croire en lui, c'est faire confiance entièrement. Et nous pouvons avoir le salut si nous croyons complètement, si nous pouvons remettre notre vie, notre existence entière entre les mains de Dieu. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que cet évangile, non seulement il vient de Dieu, il est là pour le salut, il est facile à recevoir, il suffit de mettre sa confiance, mais il ne fait pas de discrimination. Il est valable aussi bien pour les Mauritaniens que les Japonais, que les Suisses, que les Français. Même les Américains et les Français. Le juif, premièrement, ça veut dire pas qu'ils sont plus importants. Mais le salut est venu d'abord auprès des Juifs en Jésus. Et donc les Juifs encore divisaient tout le monde entier, il y avait eux et puis les autres, les Grecs. Et en fait, cet évangile, il est universel. Et je me réjouis de voir dans une église toutes les races et toutes les nations. Je crois que les églises ethniques ne sont pas bibliques. Si elles ne débouchent pas sur une intégration dans le corps de Christ au sens le plus large. Avoir l'église des Corses d'un côté, l'église des Bretons de l'autre, c'est pas l'évangile, c'est pas l'église. Je reconnais que ça peut être un moyen de toucher ces Corses ou ces Bretons, mais ne restons pas enfermés entre Corses ou Bretons. Il termine, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est le verset qui avait interpellé notre brave Martin Luther lorsqu'il était aux toilettes dans son château. Dieu peut utiliser toutes les circonstances de la vie. Et nous continuerons à parler de ce dernier verset la semaine prochaine parce qu'il est déjà tard. La puissance de l'évangile, Paul nous l'a défini rapidement. Dans 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis par les 12. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et il est ressuscité. Cette simple histoire, c'est la puissance de Dieu pour transformer les vies.